France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann, temps fort en politique, c'était mercredi à l'Elysée. Emmanuel Macron s'exprimait devant les maires de France et il parlait notamment du populisme.
Le jour où on n'est pas ensemble, alors on ouvre un formidable boulevard. Non pas au populisme, moi je n'aime pas ce terme. Nous sommes des vrais populistes, nous sommes avec le peuple, tous les jours. Mais aux démagogues, à ceux qui voudraient simplifier les choses, à ceux qui aiment le fracas du quotidien.
Le président de la République qui se revendique du populisme et qui critiquait la presse en reprochant aux journalistes de regarder la colère avec une fascination morbide.
Les responsables politiques ont une responsabilité inédite. Mais avec eux, et je le dis pour nos amis journalistes qui sont là, les journalistes aussi, les intellectuels, quand on ne regarde que la colère et qu'on ne fait la promotion que de la colère, avec une forme de fascination morbide, en disant on ne rend pas service à cette colère légitime.
Emmanuel Macron, donc mercredi, Natacha Polony, vous êtes sentie visée, vous ne regardez que la colère, vous avez une fascination morbide.
Quand on fait la promotion que de la colère, puisque pour reprendre la forme exacte de la phrase présidentielle, et il y a dans ces deux extraits qu'on vient de passer, quelque chose d'assez extraordinaire sur la manipulation de la langue par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, premier point, première observation, Emmanuel Macron a enfin compris que ce terme populiste était une stupidité absolue.
Pourquoi ?
Il vient de s'apercevoir que le fait d'utiliser comme une insulte un mot dont la racine première est le mot peuple n'était pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Il y a mis le temps. Mais ça y est, il explique que lui n'aime pas ce terme. C'est quand même dommage de l'avoir employé aussi souvent.
Il faudrait le remplacer par la démagogie dont la racine aussi est le mot peuple, mais en grec.
Oui,
donc ça s'entend moins.
Ça s'entend moins, d'autant que c'est celui qui essaye de conduire le peuple, donc celui qui le manipule. On arrive à comprendre un petit peu mieux. Mais derrière tout cela, il y a en fait un désarroi idéologique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne sait pas quoi faire avec cette colère et avec ce peuple. Alors, le réflexe est d'accuser ceux qui observent ou ceux qui essayent de penser cela et qui sont donc immédiatement accusés de faire la promotion de cette colère. C'est-à-dire que la nommer, essayer de la penser, serait en faire la promotion. Non, cette colère est réelle, elle existe. Nous devons essayer de comprendre quels sont les rouages. Pour éviter quoi ? Que la colère ne bascule vers la violence.
Raphaël ?
Ouais, il ne s'agit pas d'épouser toutes les colères, il s'agit d'essayer de comprendre d'où elles viennent. Et je pense qu'il serait avisé, non pas d'en faire la promotion, mais à l'Élysée de l'entendre et de chercher à la comprendre, et parfois même peut-être à l'anticiper. Parce qu'on a vu jeudi soir à l'émission politique, Nicolas Hulot quand même expliquer qu'il avait prévenu que cette colère allait monter et qu'il fallait prendre des mesures sociales.
On va y venir, mais vous avez entendu les applaudissements des maires réunis à l'Élysée.
J'ai entendu
la phrase sur la fascination morbide.
Oui, oui, ils applaudissent. Mais je veux revenir sur la question du populisme. Le populisme, c'est pas un mot qui est suffisant pour décrire la vague actuelle de remise en cause des institutions démocratiques. Mais par contre, Emmanuel Macron dit une vérité. Il est populiste, lui aussi. Mais qu'est-ce que c'est que le populisme ? C'est une stratégie électorale ou politique qui vise à dire « je suis le peuple, je suis son porte-parole ». Or, en réalité, c'est une négation des clivages politiques dans lesquels on vivait auparavant.
Pourquoi ?
Parce que le peuple est divisé. Il n'y a pas « je suis le peuple », il n'y a pas « moi et le peuple ». Une société, ça se construit autour de corps intermédiaires. C'est très important de le comprendre. Le peuple n'est représenté par aucun parti en tant que tel, par aucun leader politique. Il est contradictoire, le peuple. Il y a des corps intermédiaires, il y a des partis politiques. C'est ça qui façonne un peuple, c'est cette vie contradictoire. Et des visions opposées, émerge une vision majoritaire, qui est, dans le cas d'Emmanuel Macron, portée par Emmanuel Macron. Mais ce que les populistes nient, c'est qu'ils s'affirment comme représentants du peuple, ou des 99%. Et je trouve, moi, que c'est un mot qui permet de définir un certain rapport à la politique aujourd'hui et que effectivement Emmanuel Macron a le même rapport à la politique que la plupart des leaders qu'il qualifiait lui-même de populistes auparavant.
Disons que là où je rejoins Raphaël, c'est sur cette question des corps intermédiaires dont nous voyons exactement dans ce mouvement des Gilets jaunes à quel point c'est une question essentielle. Les corps intermédiaires au sens large, c'est-à-dire une des manifestations, une des émanations du pouvoir et de la volonté populaire. Pas la même que les pouvoirs, que les trois pouvoirs qui organisent la démocratie, mais ce sont des pouvoirs qui découlent de la volonté populaire, ces corps intermédiaires. Or, ils sont éradiqués. Toutes les institutions qui permettent de canaliser la colère, de canaliser les émotions, de canaliser aussi, et puis d'entendre la voix des citoyens, sont aujourd'hui détruites. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les syndicats, que ce soit l'armée, les églises, tout ce qui permet de donner une voix qui soit apaisé. Et nous voyons comment un mouvement comme celui des Gilets jaunes, parce qu'il ne s'appuie pas sur des corps intermédiaires, est profondément spontané, et c'est en cela qu'il est intéressant, mais c'est aussi sa faiblesse, puisque ça ne lui permet pas de dépasser la colère immédiate, et que on voit aujourd'hui à quel point tout cela peut basculer dans une forme de radicalité. C'est pour cela qu'il faut absolument reconstruire cette articulation démocratique des pouvoirs qui manque aujourd'hui.
Et le président de la République actuelle a contribué, même s'ils étaient déjà affaiblis, ces corps intermédiaires, à les marginaliser encore plus. Par exemple, il y a Laurent Berger qui, face à la colère des Gilets jaunes, propose une discussion justement de corps intermédiaires. Une table ronde pour sortir par le haut de cette crise qui a été déclenchée d'abord par l'incapacité du gouvernement à penser la question écologique de manière sociale.
On va y venir parce que Emmanuel Macron parlait d'une forme d'injustice.
Oui, mais je vais vous dire ce que c'est que le populisme d'Emmanuel Macron là. C'est ce mépris pour les corps intermédiaires. Il sent qu'ils sont faibles et donc c'est une raison pour les mépriser encore plus. La manière dont il traite un syndicat comme la CFDT, c'est intéressant parce que ça correspond à sa phrase. C'est éclairant, parce que la CFDT, idéologiquement, n'est pas totalement hostile à la grille de lecture réformiste des
Quels sont les troubles de la CFDT
Juste
il y a
une
faiblesse des syndicats, faible représentativité.
C'est surtout que nous sommes dans un aboutissement d'un processus, c'est-à-dire que ces corps intermédiaires se sont aussi affaiblis eux-mêmes. Et on peut mettre d'ailleurs sous ce même concept, par exemple, le rôle de l'école républicaine qui s'est affaibli. Or, le corps enseignant est un des corps intermédiaires absolument essentiels puisqu'il est celui qui permet d'émanciper le citoyen. Mais les médias aussi ont failli. Ils ont échoué dans leur vocation de retransmettre cette volonté populaire dans son pluralisme, justement, dans sa contradiction. Mais pendant des années, ils n'ont pas été cette voix.
Il
n'ont pas permis
eu autant
l'expression.
De diversité,
oui, c'est vrai.
D'opinion dans
aujourd'hui,
les médias.
Aujourd'hui, oui, parce que il y a eu une prise de conscience. Le problème, c'est qu'elle arrive un peu tardivement, à un moment où, au contraire, les réseaux sociaux ont fait en sorte de détruire cette médiation que représentent les journalistes.
Mais Facebook,
et du coup,
c'est un
nous sommes à la traîne derrière ces réseaux sociaux. Nous essayons de reconstruire tous cette manière de penser l'information, d'essayer de retraduire de comprendre les problématiques. Mais l'image des médias en tant que l'un des corps intermédiaires qui permet à la volonté populaire de s'exprimer est profondément abîmée.
Même si Facebook est un média.
Moi j'ai un texte qui est quasiment un texte religieux pour moi, qui est écrit en 2011 par un énarque qui s'appelle Emmanuel Macron, et dans la revue Esprit, où il explique « La démocratie, c'est précisément la capacité à décider à travers des élections et ensuite à mettre en place la démocratie sociale, c'est-à-dire à s'appuyer sur des corps intermédiaires pour que un homme n'applique pas de manière rigide son programme, sans quoi, eh bien, on court à l'explosion sociale, dit Emmanuel Macron en 2011.
Macron, prophète de
bien
son
sûr,
propre malheur.
Il faudrait lui renvoyer ce texte de 2011. C'était l'époque où il voulait se placer à gauche, donc il avait une rhétorique beaucoup plus social-démocrate qu'aujourd'hui. Mais ce texte, il anticipe la catastrophe que représente l'injustice fiscale de son gouvernement et la catastrophe que représente la marginalisation des corps intermédiaires. Et il y a dans ce texte, pour moi, la première critique proactive du macronisme en politique.
Donc à lire, c'est dans la revue Esprit, mais donc en pleine crise des gilets jaunes qui contestaient la taxe carbone, et vous le citiez tout à l'heure, Raphaël, l'ancien ministre de la transition écologique Nicolas Hulot est donc sorti de son silence, et c'était jeudi soir sur le plateau de l'émission politique et devant Léa Salamé sur France 2.
Quand vous voyez que la taxe sur les transactions financières, que l'ensemble de la finance spéculative n'est pas soumis à la solidarité, je comprends que les classes moyennes et les revenus modestes, à un moment, aient un ras-le-bol et ne peuvent plus entendre la raison sur un enjeu majeur dont j'espère on va reparler après, parce que il faut être préoccupé par les fins de mois des Français, mais il faut aussi ensemble, sans s'affronter, être préoccupé par un sujet qui s'appelle ni plus ni moins la fin du monde.
C'est extrêmement fort, vous disiez Raphaël, quand on écoutait le son, qu'il était très bon, en tout cas qu'il était convaincant. Vous l'avez trouvé fort et convaincant dans cette émission ?
J'ai trouvé qu'il était resté au niveau qui avait été le sien lors de cette émission sur cette chaîne de radio France Inter. Et je trouve qu'il place le débat là où il doit être.
Et justement, alors comment combiner les problèmes de fin de mois avec les problèmes de fin du monde ? On peut tout à fait considérer que c'est absolument contradictoire et irréconciliable, Natacha.
Alors, deux choses. D'abord, ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez passé, c'est l'évocation de la taxe sur les transactions financières. Qui avait souligné à l'été 2017 que dans la feuille de route de Nicolas Hulot, en juillet 2017, l'un des problèmes qui avait quasi poussé Nicolas Hulot à la démission à ce moment-là, et le fait que dans la nuit avant la diffusion de cette feuille de route, eh bien, le projet de taxe de transactions financières avait disparu, curieusement. C'est-à-dire que c'était un des sujets où déjà il avait perdu les arbitrages. Or, c'est un sujet essentiel.
Mais la grande problématique, combiner les problèmes de fin de mois avec les problèmes de fin du monde, est-ce que c'est possible ?
Je vous réponds, mais bien entendu que c'est possible. C'est même nécessaire de les lier, dans la mesure où nous nous apercevons aujourd'hui que c'est pas seulement le problème du diesel ou des problèmes ponctuels, même seulement la question du réchauffement climatique qui est problématique. C'est l'organisation d'une société autour de la production et de la consommation d'objets, pour beaucoup parfaitement inutiles, mais qui permettent de faire tourner la machine. Et surtout, la division mondiale du travail qui fait que l'on doit, par exemple, envoyer... La France produit 80% du lin mondial. Eh bien, ce lin est envoyé jusqu'en Chine, où on le tisse pour qu'ensuite il revienne. C'est une aberration.
Raphaël. Il y a eu un moment fort dans cette émission. C'est aussi la confrontation qui avait déjà été annoncée sur Inter entre... la politique néolibérale et la question écologique. Et finalement, ça nous oblige tous à choisir, à trancher, à retrouver cette idée que la politique, ça suppose de trancher. Et c'est précisément ce que le « et en même temps » macronien refusera toujours de faire. Et il y a là la raison de la démission de Nicolas Hulot qui a été rappelée jeudi soir. C'est l'incapacité de ce gouvernement, pour des raisons qu'on comprend tout à fait, puisqu'il épouse les logiques du marché, à trancher face à la question climatique et à la question de la biodiversité.
Mais vous ne répondez pas à la question de la combinaison des fins de mois avec les problèmes de fin du monde. Les mots sont forts. Et cette contradiction-là, elle était au cœur.
Mais bien sûr, elle était
des larmes de Nicolas Hulot quand il a quitté le gouvernement. Et elle est toujours au cœur de ces discours.
Parce qu'il n'y aura pas de transition écologique possible s'il n'y a pas une transformation sociale de nos sociétés.
Et si nous ne sommes pas décidés à changer nos habitudes de vie et de consommation, est-ce que le mouvement des gilets jaunes, finalement, n'est pas voué à se généraliser à chaque fois qu'on demandera aux individus, aux familles, aux citoyens de changer totalement leur mode de vie de consommation et de s'adapter à un nouvel ordre écologique ?
On leur demande de changer leur mode de vie alors qu'ils ne peuvent pas parce que la société est organisée de façon à ce qu'ils ne puissent pas. C'est ça qui les rend dingues. Donc la problématique sociale, c'est la question de savoir comment on recrée du pouvoir d'achat, c'est-à-dire la possibilité pour les gens de choisir à peu près comment ils dépensent l'argent qu'ils auront gagné par leur travail. Encore faut-il qu'ils aient du travail. Donc encore faut-il relocaliser l'économie pour que des emplois industriels existent en France, des industries propres, mais des emplois industriels qui sont ceux qui créent le plus de valeur ajoutée. Un emploi industriel crée 3 emplois de service autour. C'est cela qui crée de la richesse, mais une richesse qui recrée des bassins d'emploi. Pas du tout, puisqu'on rejoint la problématique de Nicolas Hulot, qui est celle de lutter contre le libre-échange et la financiarisation de l'économie, pour mettre en place des circuits courts, tout simplement. C'est l'évidence et la logique, et c'est ça qui créera de la richesse.
Il y a une restructuration de la production, mais il y a aussi une approche différente de la fiscalité. un État décide d'une politique et la met en œuvre à travers notamment l'impôt. Or là, le problème qui se pose, c'est un problème de justice fiscale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décemment espérer que les gens acceptent, quand ils sont dans la difficulté, de payer plus cher leur diesel, quand dans le même temps, le même gouvernement fait des cadeaux aux plus riches des Français.
Mais le gouvernement vous répondra, il a mis en place des primes à la conversion et ça a été suffisamment relayé par l'ensemble des ministres et par le président de la République pour accompagner justement cette transition écologique.
Déjà, le gouvernement, on peut le souligner, ça a été souligné jeudi soir, le gouvernement répond à la colère une fois qu'elle s'est exprimée. Il n'anticipe pas.
C'est déjà pas mal.
Non, il n'anticipe pas. Mais c'est quand même lunaire quand un des ministres principaux de votre gouvernement vous dit et vous alerte, alors même qu'il est le père de cette taxe carbone, que attention, ça va être un problème social immense s'il n'y a pas de mesures sociales, et que vous faites la sourde oreille parce que ce n'est vraiment pas votre préoccupation principale, et qu'ensuite vous vous prenez dans la tête cette colère qui explose, eh bien c'est à mon avis trop tard. Mais en plus, il y a une chose à dire, oui. C'est que ce sont de petites mesures, alors que ce qu'il faut faire, c'est exactement une transformation globale. Il faut enfin lier ces questions écologiques et sociales, mais de manière générale. Ce qui suppose quoi ? Ce qui suppose aussi de poser la question de la taxe aux entreprises polluantes multinationales, d'une taxe Tobin, de la taxe sur le kérosène, enfin toute une série
votre
de
solution,
mesures.
Votre solution, c'est d'augmenter les taxes sur d'autres secteurs qui n'étaient pas concernés.
Sans aller dans une légère caricature, un tout petit peu de mauvaise foi, cher Ali. La réflexion qui est intéressante à faire quand on entend Nicolas Hulot et quand on entend les débats politiques aujourd'hui, c'est le fait que l'écologie est devenue le noyau central de notre pensée. Peut-être parce que c'est le seul horizon qui nous reste. C'est-à-dire que justement, l'horizon social a été tellement abandonné ces dernières années qu'aujourd'hui, on redécouvre une façon de penser une forme de révolution de la société. Or, ce qu'il faudrait, c'est penser tout cela de façon combinée et au-delà, se rappeler que la démocratie, c'est aussi une interrogation sur la façon dont un être humain va vivre dignement et va construire son propre projet d'existence. C'est cela qui nous manque aujourd'hui. Donc ça nécessite de mêler la question sociale, la question culturelle, la question économique, la question écologique, pour un projet qui ne soit pas simplement l'adaptation à la mondialisation.
Vous êtes tous les deux révolutionnaires.
Non, je pense que l'horizon révolutionnaire
d'abord,
de l'époque, effectivement, c'est l'écologie. C'est ce qui va permettre aussi de, si on embrasse sérieusement la perspective d'une transformation écologique de nos sociétés, ce qui va permettre de relégitimer la puissance publique face aux intérêts particuliers. Et c'est donc une renaissance pour la politique, si on le prend au sérieux.